Dépendamment comment est-ce que vous voyez ça. On avait la semaine dernière, j'avais pas terminé. Je voulais voir la supériorité de Christ et puis cet après-midi, on devait être chez les Houles, en tout cas dans un plan initial. Et puis, fait que je me suis dit, ben puisqu'on est ici ce soir, on pourra voir du moins la dernière section de texte qu'on n'avait pas eu le temps de voir la semaine dernière en ce qui concerne Jésus qui est supérieur aux anges. Et puis, je vous invite déjà à tourner dans Hébreux 1. Hébreux, il commence déjà dans les premiers versets en disant que Dieu nous a parlé dans les temps passés par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils, et puis qui a établi héritier toutes choses. Et puis là, il parle du Fils comme étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et puis pour certains Hébreux qui s'étaient convertis, et puis, ou qui avaient été mis en contact avec l'Évangile, bien, certains d'entre eux avaient tendance à revenir à un ancien système, à l'ancienne alliance, parce qu'ils voyaient que Jésus s'était en quelque sorte humilié en prenant la forme d'un serviteur, en prenant la forme d'un homme, et il était. Au verset dans le chapitre 2, si vous êtes dans Hébreux, là, c'est juste pour vous rappeler les quelques détails. Ça dit au verset 6, Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Alors, effectivement, l'homme est petit à comparer Dieu. Et parlant de Jésus, tu l'as abaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Mais par contre, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Alors, ces Juifs-là devaient comprendre que, ces Hébreux-là devaient comprendre que Jésus, bien qu'il avait été placé dans un corps d'homme, puis qu'il s'était humilié en prenant la forme d'un homme, puis même en dessous des gens, des anges, ça n'enlevait en rien sa supériorité au-dessus des anges. Parce qu'on voyait dans les textes précédents que, même dans Colossiens, que Jésus a tout créé par lui, pour lui. Alors, il est au-dessus de toutes choses. Alors, on voyait que Jésus, en tant que fils de Dieu, il est au-dessus des anges. Jésus, en tant que fils de l'homme, est aussi au-dessus des anges. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets. La dernière fois, on avait arrêté au verset 9, et il y aura une autre section à partir des versets qu'on va voir ce soir, 10 à 18. On va finir le chapitre 2 en question, puis regardez comment est-ce que Jésus, finalement, est supérieur aux anges. Parce que c'est ça le début de l'argument du chapitre d'Hébreux, que Jésus est supérieur aux anges. Alors, on va faire un mot de prière, que Dieu nous conduise dans sa parole, vienne toucher nos cœurs en ce qui concerne l'identité et la personne de notre Sauveur et Seigneur. Dieu, on vient devant toi pour te louer, parce que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Tu es le seul Dieu, Seigneur, qui règne dans l'univers, qui nous a donné la vie, qui est créateur de toutes choses. On a le privilège d'ouvrir ta parole ce soir, Seigneur, d'apprendre à te connaître. Et il y a des domaines qui nous fascinent ou des domaines qui nous laissent un peu, des fois, avec des points d'interrogation en ce qui concerne le domaine spirituel, le monde spirituel. Mais on croit, Dieu, que tu es le créateur de toutes choses, que tu es notre créateur, que tu es notre papa, quand on est devenu tes enfants. Que tu es le créateur des anges et Seigneur, tu nous montres dans ta parole que tu es bien supérieur aux anges. Et on veut apprendre à te connaître encore plus, se rappeler de ces vérités qui sont si importantes en ce qui te concerne et qu'on puisse serrer ces vérités-là, ta parole dans nos cœurs, afin qu'on puisse te ressembler de plus en plus, afin qu'on puisse ne pas pécher, Seigneur, et qu'on puisse être transformé par toi. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen. OK, alors, on va regarder par section les versets 10 à 18. On a 8 versets. Commençons avec, juste pour faire une courte rétrospective, je vais lire les versets 1 à 9 pour se placer dans le contexte, puis après ça, on enchaînera avec le verset 10. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Le terme emporté, tandis qu'on passe par-dessus, est vraiment intéressant. Le terme, c'est parareo, qui veut dire glisser et tranquillement. On est en train de se laisser tranquillement glisser et justement emporter loin d'elle. Comme une rivière qui sort de son lit tranquillement. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Quelqu'un qui voudrait lire les versets 10 à 13? Un volontaire pour lire 10 à 13. Continuez. OK, Vincent, s'il te plaît. OK. On est toujours dans cet argument-là que l'auteur est en train de montrer que Jésus est supérieur aux anges. Dans les trois premiers versets qu'on voit ce soir, 10 à 13, ou quatre versets, inclusivement le verset 10, quelles sont les preuves de la souveraineté du Fils démontrant sa supériorité sur les anges en tant qu'homme? Comment est-ce qu'on voit la supériorité de Christ sur les anges? Quel est l'argument de l'auteur comme tel, finalement, dans ces versets-là? Ouais, dans les versets 10 à 13. Quel est l'argument de l'auteur pour nous montrer? Regardez le Fils. Regardez ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Quel argument est-ce que ça donnait aux Hébreux pour dire Jésus, c'est pas n'importe qui? Qu'est-ce que Jésus, Dieu, évidemment, puisque c'est toute l'œuvre de Dieu dans ces trois personnes, qu'est-ce que Dieu a fait ou a prouvé, incluant la personne de Christ là-dedans, pour montrer qu'il était au contrôle de toutes choses et que Christ est supérieur aux anges? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? OK, il a conduit à la gloire beaucoup de fils, absolument. Le Père a donné à Jésus la tâche de conduire beaucoup de fils à la gloire. Regardez le verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Il y a beaucoup de choses juste dans ce verset-là. Qu'est-ce que ça veut dire de conduire beaucoup de fils à la gloire? Est-ce que n'importe qui peut faire ça, là? Qui sont ceux parmi nous ici qui peuvent conduire quelqu'un à la gloire? On peut conduire quelqu'un à Christ, mais qui sont ceux parmi nous qui peuvent conduire quelqu'un dans la gloire? Sinon Dieu lui-même. Oui. Oui. Oui, absolument. Il est le prince de leur salut. Est-ce qu'un ange pouvait faire ça? Non. Un homme ne peut pas conduire beaucoup de fils à la gloire. C'est seulement, regardez le verset 9, ça dit « Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Seulement Dieu pouvait faire ça, et ça c'est le Fils. Alors le Père a donné à Jésus la tâche de restaurer l'homme, d'être l'auteur du salut de l'homme. L'idée ici, à la fin du verset 10, le prince de leur salut, C'est un peu en quelque sorte, Jésus est devenu le capitaine, est devenu celui qui pouvait conduire, est devenu l'auteur du salut, l'auteur de notre salut, est devenu le prince de notre salut. Et pour un Hébreu qui est en train de se dire, ouais, mais Jésus, on l'a vu dans un corps d'homme, il était en dessous des anges, est-ce que finalement Jésus est inférieur aux anges? Mais l'auteur est en train de dire, Dieu, même à travers Jésus-Christ, par Jésus-Christ, a conduit beaucoup de fils à la gloire. Jésus est le prince de notre salut, celui qui nous sauve. Alors, à bien plus forte raison, le Fils de l'homme est bien supérieur aux anges, parce que l'œuvre du Fils témoigne de toute évidence qu'aucun ange n'est capable de faire ça. Le verset 10 dit aussi qu'il est, il convenait en effet, et là on passe à la fin parce que c'est comme une parenthèse, il convenait en effet qu'il ait élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Pourquoi ça convenait que le Fils soit élevé à la perfection par les souffrances? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot parfait sous-entend quoi? Est-ce que par Jésus, parce qu'il a été crucifié, qu'il a été humilié, qu'il a été battu. À notre perspective, on devrait considérer ça comme, finalement, le Fils de l'homme a été tellement humilié. Est-ce que c'est pas une preuve qu'il est en dessous des anges? Qu'est-ce que ça veut dire, Céline? Oui. Alors, tout a été fait. L'idée ici, les mots synonymes que j'avais notés, là, c'est moi qui me retrouvais dans mes notes. Le mot parfait sous-entend l'idée de complet, d'utile, d'adéquat, que tout a été fait parfaitement pour que le Fils, par ses souffrances dans la chair, qui était parfaite, mais c'était parfait pour la tâche que le Fils devait faire pour nous sauver. Alors, il était nécessaire que Jésus, comme sauveur et grand prêtre, qu'il souffre. On va voir un petit peu cet aspect-là tantôt en ce qui concerne l'idée de grand prêtre. Alors, regardez aussi le verset 11. « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Qu'est-ce que l'auteur est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de communiquer comme argument pour nous comme pour les Hébreux à ce temps-là? OK, l'auteur de tout. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous communiquer? Entre l'humanité perdue, l'humanité déchue, d'un Dieu sauveur, si je peux dire, quelle était l'intention de Dieu en nous sauvant? Je peux poser cette question-là comme ça. Quelle était l'intention de Dieu en nous sauvant? Rétablir ce qui avait été brisé, nous amener dans la gloire, absolument. La fin du verset 9, on l'a lu tantôt, je vais le relire aussi. À cause de la mort, on le voit couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la mort, pour qui? Pour tous. Il a souffert la mort pour tous. Et là, il arrive au verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. » Il y a eu un sacrifié, Jésus-Christ, qui s'est livré pour tous, pour que tous soient réunis aussi en un seul. Qui sont sanctifiés, qui sont tous sanctifiés par un seul. On pourrait gratter ça longtemps, là. Un seul sacrifice tellement parfait qui peut sauver toute l'humanité qui voudrait se repentir. Pardonner tous les péchés. Il est mort pour tous et ça pour un seul sacrifice. Éphésiens nous parle de la richesse de sa grâce. Comment est-ce que Dieu, quand on va considérer ce qu'il est dans l'éternité future, on va considérer pendant plusieurs années la richesse de sa grâce. De comment est-ce qu'il était riche pour nous pardonner. Alors, son humanité fait un avec le sanctifiant et le sanctifié, qu'on pourrait dire ça comme ça. Alors, en quoi cette unité, je vous pose la question encore, en quoi cette unité entre nous et le Fils est un argument convaincant pour ceux qui voudraient retourner en arrière? En quoi est-ce que l'unité entre celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés est un argument suffisamment convaincant ou est une vérité stimulante pour le croyant aujourd'hui pour l'empêcher de revenir en arrière? OK, c'est un sacrifice parfait. Alors, en quoi ça stimule? En quoi ça motive pour nous à rester? Ah ouais? Pourquoi je reviendrais à un vieux système qui marchait pas? Ou qui était une image, l'ombre des choses à venir, si celui que j'ai présentement est parfait? Oui, Danny? Oui. 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 Ouais, on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance pour être secouru, obtenir miséricorde, puis être secouru dans nos besoins, qui est un texte de Hébreu, justement. N'ayez pas peur de vous approcher de lui, parce qu'on a accès auprès de lui. Absolument. Merci, Danny. Quoi d'autre aussi? D'autres commentaires qui vous venaient en tête? Qu'est-ce que ça... J'ai pas la bonne formulation dans ma question. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça a changé pour Jésus qui se soit incarné? Qu'est-ce que ça a changé dans sa perspective? C'est Dieu, là. Il n'y a rien qui change en Dieu, là, vous me comprenez. Mais qu'est-ce que ça a changé dans la perspective de Dieu, dans la personne de Jésus, face à nous? Ce que les versets suivants disent, 12 et 13. Qu'est-ce que ça a changé? Et encore là, je dis, c'est pas le bon mot, changer, là, mais qu'est-ce que ça le fait que Christ se soit incarné? Ouais, OK. Comment? La proximité. Ouais. Oui, Dave? Est-ce que j'ai manqué? OK. Ah oui. Alors, oui, 1 Timothée 2 dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, effectivement, Jésus-Christ, homme, devient l'intermédiaire aussi absolument entre nous et le Père. Et le verset 12 dit, il commence le verset 11 en disant, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. On est tous unis. » On est tous attachés en communion avec Dieu. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler, comment? Frères. Pourquoi frères? On est dans sa famille. On est enfants de Dieu. Et il a pris notre chair aussi. Est-ce qu'on peut dire ça d'un ange? Un ange n'est pas notre frère, n'est pas peut-être notre cousin, je sais pas. D'une façon éloignée, on comprend qu'ils sont d'une création de Dieu, mais ils sont pas Jésus. C'est notre chair qu'il est venu prendre, ce qu'on va voir bientôt. C'est pourquoi il a pas honte de nous appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Jésus va en faire partie. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il y a une unité entre nous et le Fils. Et le Fils, bien qu'il soit tellement prêt, excusez le micro, qu'il soit tellement prêt, qu'il soit tellement, qu'on soit tellement unis avec lui, ben, il n'a pas honte de nous appeler frères. Et bien qu'on soit si près, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur. Ça ne veut pas dire qu'il est moins important ou qu'il a moins de capacité à justement nous conduire à la gloire ou d'être l'auteur de notre salut. Il est de loin supérieur aux anges. On va continuer les versets 14 à 16. Un autre volontaire qui voudrait lire ces versets-là. OK? On connaît bien le verset 14, on le cite une fois de temps en temps. Quel avantage Jésus a sur les anges? Il a participé au sang et à la chair. D'un premier regard, pour un Hébreu, c'était peut-être désavantageux dans le sens qu'il s'est humilié. Sauf que, qu'est-ce que ça l'a conduit, cette incarnation-là? Toujours dans le verset 14. Alors, il a anéanti, à cause qu'il a participé au sang et à la chair, il a lui-même, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout ce que Satan essayait de faire, il l'a anéanti. Oui. C'est ça. Oui. Satan avait une arme, le péché. La mort, le péché qui conduit à la mort. Oui, vas-y, Danny. Oui. Je vais répondre spontanément, là, en me gardant une petite réserve, puisque c'est une question spontanée. Là. Mais moi, je pense que oui. Je pense qu'au moment de la mort de Jésus, Satan a été désarmé. Et il s'y attendait peut-être pas, je sais pas dans quel mesure, il avait tout compris les ramifications de la mort de Christ, parce que jusqu'à un certain point, Satan a joué lui-même pour que Jésus soit trahi. Hein? Il avait possédé Judas, puis etc., puis il avait criblé Pierre, et puis influencé, à mon avis, probablement tout le processus du faux procès. Mais une chose est sûre, c'est que Satan est précipité à cause de la mort de Christ. Et je pense que oui, effectivement, quand il est mort, il a perdu, à ce moment-là, il a été précipité, et il a perdu son autorité sur la puissance de la mort. Parce que, comme je disais tantôt, Satan avait une arme entre ses mains, il avait la puissance de la mort, et en allant faire mourir Jésus, qui était sans péché, ça retombait contre lui, finalement. Il perdait la victoire en faisant ça, parce que finalement, Jésus, par sa mort, il donne quoi? Il donne la vie. Hébreu 9, qui dit là où il y a là où il y a fusion de sang, il y a pardon des péchés, ou là, il y a pardon de péché. Là, je suis en train de le citer tout croche, là. Mais vous comprenez, Hébreu 9, là, si quelqu'un le trouve, là, ben là où il y a le pardon des péchés, mais il n'y a plus lieu, finalement, que d'avoir encore effusion de sang. Alors Jésus, en mourant, lui qui était l'agneau parfait, ben a fait en sorte que Satan a perdu tout pouvoir. Puis à mon avis, effectivement, il a été précipité. Il a perdu tout pouvoir. Et son temps est compté aussi. Question, là, juste avant qu'on passe un petit peu plus loin, là, parce que j'ai vu quelques sourcillements. Vas-y, plus là. Ouais. Toi, Danny, tu faisais référence à un autre texte que... Ouais, tu veux-tu le lire? C'est ça. Je c'est ça, c'est un autre contexte. Et vraiment, pour moi, quand que Jésus est mort puis qu'il a anéanti le pouvoir de la mort que Satan avait, ben Satan avait plus de place là pour accuser les frères. Et puis, j'allais dire quelque chose d'autre, là, mais je l'ai oublié. Vas-y, Vincent, tu avais levé la main aussi? Oh, excuse, ça m'en revient. J'allais juste dire, je pense que ce que tu faisais référence, c'était, de ce que j'ai compris, c'était à la fin, là, dans le millénium, là, où ce que là, il est enchaîné pendant 1000 ans, puis après ça, il est relâché. C'est un autre contexte qui est encore à venir. Non, c'est ça. Ça, c'est un autre contexte. OK, vas-y, Vincent. Oh, dans Hébreux 2, 14. Ouais. 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 C'est semblablement égal. Ouais. OK. J'ai l'impression que tu as une version. Montre-moi la couverture de ta Bible. C'est Colombe. Louis II, mais qui est une version Colombe qui est effectivement un peu différente. Tu as Darby, Céline, qu'est-ce que ça dit? Ouais. OK. Ce que je vais faire, je vais vérifier le mot original qui est là. Pour moi, ça me cause pas de trouble, parce que la façon que je le vois, c'est que de la même façon que nous, on participe au sein et à la chair qu'un enfant naît, ben pour moi, ça veut dire de la même façon, pareillement. C'est ça, pareillement, ou également, ou semblable. J'ai l'impression que des fois, dans notre définition, en français, on a une sphère de définition, et puis il y a des définitions qui vont plus s'adresser à certains contextes. Quand on dit des fois semblable, c'est pas pareil, mais ça ressemble. Puis là, je pense qu'à mon avis, surtout avec les autres traductions, mais je vais revérifier le mot qui est là. Parce que même Philippiens 2, je ne vais pas me mettre encore les pieds dans les plats, mais c'est l'idée de quand il dit qu'il s'est abaissé puis qu'il a pris la forme d'un homme, et s'est métamorphosé. Il a pris la forme d'un homme, il a pris le corps d'un homme. Alors pour moi, c'est la même façon il y a participé. Mais je vais vérifier certainement le mot original. Et puis je pourrais revenir avec quelque chose de plus clair, là. C'est ça. OK. Ouais. Ouais. Comme je dis, je vérifie, te vérifier, as-tu des nouveaux mots à ajouter? Qui sont? Ouais. OK, vas-y. La même façon. Ouais. Ouais. OK. Une chose qu'il faut être clair dans notre théologie, c'est que Jésus a été 100% homme. Il l'a pas été à 50%, là. Il a été à 100%. Et Dieu, dans sa divinité, Jésus, dans sa divinité, il a été 100% Dieu aussi. On coupe pas ça à chacun 50% pour faire une personne. Oui, mais il y a eu beaucoup de, à mon avis, d'hérésies qui ont été créées suite à ça, là, pour justement enlever une partie de divinité, enlever une partie d'humanité, puis il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Jésus a pris la forme d'un homme. Les Hébreux devaient comprendre ça. Il s'est incarné. Dieu qui pouvait sauver, qui est bien au-dessus des anges, ben est venu anéantir un autre ange déchu. Même en fait, celui qui est le chef des anges déchus, c'est-à-dire le diable. Jésus qui s'était incarné pour un Hébreu que l'auteur est en train de dire, c'est, voyez là, le Fils de l'homme, il a participé au sang et à la chair, mais en mourant, il a anéanti la puissance du diable, c'est-à-dire la mort, il a anéanti le diable par sa mort. Alors, il a anéanti un ange. Oui, Céline. Oui. Oui, absolument. Comme tu dis, il y avait une continuité probablement dans leur tête du Messie là, qui venait écraser la tête. Oui, absolument. Oui, merci Céline. Alors, par sa mort et sa résurrection, Jésus a détruit le diable. La mort de Jésus nous a délivrés, verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La mort de Jésus nous a délivrés de la peur de la mort. Est-ce qu'une fois qu'on a été sauvé, qu'on a reçu la vie éternelle, on a cette espérance de la vie éternelle? Mais absolument. Est-ce que j'ai peur de la mort? Mais Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, a anéanti la mort en me donnant la vie. Puis à quel moment est-ce que cette victoire-là sera finale? De la mort sur notre vie? Est-ce qu'elle est déjà acquise, la victoire, si vous êtes sauvé? Est-ce que la mort a une influence sur vos vies encore? Oui? Comment? Physiquement, tu risques de mourir, à moins que le Seigneur revienne te chercher. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il y aura une victoire finale malgré ça? La résurrection. La même façon que Jésus est ressuscité, il va nous ressusciter aussi, tous ceux qui sont sauvés. Et à ce moment-là, ô mort, où est ton aiguillon? Parce qu'on aura ressuscité et la mort ne sera plus effective dans notre corps. Alors, et le verset 16, « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, c'est à la postérité d'Abraham. Les anges déchus, il n'y a rien à faire pour eux autres. Il n'y a pas de planche de salut. Il n'y a pas de rédemption possible. C'est à la postérité d'Abraham. » C'est drôle que l'auteur dise ça aux Hébreux, hein? C'est qui la postérité d'Abraham? C'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Regardez le chapitre 3. Des fois, on va discuter à savoir, l'auteur s'adresse-t-il à des croyants ou des incroyants? L'auteur peut continuer de se poser, la question peut continuer de se poser. J'aurais tendance à penser que l'auteur s'adresse vraiment à des croyants. Oui, des Hébreux, mais des Hébreux croyants, verset 1 du chapitre 3, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Alors, pour l'auteur, c'est clair que la postérité d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. Puis là, on aurait pu lire Galates 3, mais c'est ça. Alors, continuons les versets 17 à 18. Un autre volontaire pour deux versets? OK, Richard. OK. Il finit son argument en disant, en conséquence, en conclusion, il a dû être rendu semblable. Comment est-ce qu'il a été rendu semblable, Vincent? En toute chose. Hein? C'est plus qu'une ressemblance, c'est semblable en toute chose. À ses frères. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il dit en conclusion, là, c'est comme s'il ramène tout ça vers quelques phrases qui vont résumer son argument. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Humain et parfait. Absolument. Bien supérieur aux anges, même s'il a été incarné. Et pourquoi incarné? Pour qu'il soit notre frère, pour qu'il vienne nous conduire, qui devienne le prince de notre salut, qui puisse s'identifier à nous, qui puisse mourir pour nous. Dieu ne nous a pas envoyé un ange, comme ce que les témoins de Jéhovah vont croire. Hein? Il nous a envoyé un ange, ils vont dire que Jésus est simplement un ange. Mais c'est pas ça. Jésus, c'est Dieu qui a pris notre forme humaine. C'est beaucoup plus personnel, si je peux dire, beaucoup plus condescendant de la part de Dieu que de venir s'humilier en prenant notre chair. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'auteur? C'était quoi le but de tout cela? Quel était le but, en quelques mots, de son incarnation? Évidemment, de nous sauver. Mais quels sont les derniers points que l'auteur ramène? OK? Pour faire l'expiation des péchés. L'expiation, c'est l'idée d'enlever les péchés. Le mot original est là, aurait peut-être dû être traduit pour la propitiation des péchés. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que Jésus était celui qu'il fallait avoir pour être sauvé. Celui qui était propice à nous enlever, à nous pardonner, à nous sanctifier. Il n'y en avait pas d'autre. C'était Jésus qui devait le faire. Il devait être celui qui peut faire ça. Et en prenant la forme d'un homme, en devenant notre frère, quel rôle Jésus pouvait jouer qu'un ange ne pouvait pas faire ou qu'une autre forme spirituelle ne pouvait pas faire? Quel rôle Jésus pouvait faire en prenant notre forme humaine? OK, il a été lui-même, verset 18, il a souffert lui-même, il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Absolument. On va revenir dans quelques instants sur ça. Quel est le rôle? Dans ce rôle-là, il a souffert, il a été tenté. Quel rôle Jésus a pu jouer étant incarné? Souverain sacrificateur. Jésus a pu faire ce rôle-là de souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça faisait dans le plan de Dieu? C'est que Jésus s'offrait lui-même en sacrifice. Il était lui-même un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Il ne pouvait pas en avoir de plus grand. Selon quel ordre? De Melchisédek. Là, on va un petit peu plus loin dans Hébreu, là. Mais encore là, le sens est important, sans aller trop loin puis qu'on s'endorme là sur la théorie, là, si je peux dire, là. Mais l'ordre d'Aaron, ça sous-entend quoi pour les Hébreux? C'est les sacrificateurs. Et l'ordre d'Aaron, c'était un ordre très humain. C'était une famille. Aaron était une famille parmi les Lévites. La famille, les Lévites, c'était une tribu. Il y a plusieurs familles dans la tribu. Aaron était celui, dans sa famille, la lignée, qui donnait le rôle pour les sacrificateurs. Par exemple, la famille de Corée ne pouvait pas l'avoir, ce rôle-là, même s'ils l'ont, ils ont voulu l'usurper, là. Oui. C'est ça, exactement. Ils ont été choisis par Dieu, absolument. Mais, alors, ça, c'était la descendance d'Aaron qui devenait souverain sacrificateur. Mais selon l'ordre de Melchisédek, c'était quoi la différence? C'est que Melchisédek, c'était un sacrificateur, mais il vient d'où? Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'a pas reçu un ordre familial humain. C'est comme si Melchisédek n'est pas un être mystique ou un être qu'on connaît, qui est pas né de quelqu'un réellement, là. Mais c'est l'idée que dans son rôle, il n'a pas reçu d'une descendance humaine. Et c'est dans ce sens-là que si même Jésus est de la tribu de Juda, qui aurait en théorie pas dû être sacrificateur, mais il l'est parce qu'il est selon l'ordre de Melchisédek. Bref, Jésus est souverain sacrificateur et il a pu jouer ce rôle-là uniquement parce qu'il a pris notre forme humaine. Et il a fait ce rôle-là parfaitement. Et avec quelle attitude? Avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour le prochain. Et à un point même qu'il a été sujet lui-même à la... Laisse-moi lire mes notes. Où est-ce que j'ai écrit ça? Il a été sujet aux mêmes fragilités humaines. Mais alors, il y a le verset 18 dit, car du fait qu'il a souffert lui-même, Jésus a réellement souffert, étant dans son corps, et de plusieurs aspects, et qu'il a été tenté, regardez, faites juste tourner une page, Hébreux 4:15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Alors, Jésus a souffert. Il a été tenté, et à cause de cela, il peut secourir ceux qui sont tentés. Baisse ta main, Vincent. je veux pas ta question. OK. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, évidemment. Oui, je sais bien. C'est ça. J'aurais tendance à penser que malgré tout, le terme semblable est réellement associé particulièrement à l'humanité. Au sang, la chair, comme au verset 10, il a été semblable à nous en toutes choses. C'est vraiment, à mon avis, l'humanité et ce pourquoi Jésus peut nous appeler sans hésitation et pleinement frère. Évidemment qu'il y a une différence entre nous et Jésus. Puis ça, c'est sa divinité que nous, on n'a pas là. On n'a pas la divinité de Christ. Bien que Dieu habite en nous, par exemple, on est participant de cela. Alors, j'aurais tendance à dire vraiment que le mot semblable s'associe à, de ce que je peux interpréter, plus à l'humanité là, de Jésus qu'à sa nature complète de humaine et divine ensemble, qui évidemment nous distingue aussi. OK. OK. Second 21. OK. Oui, c'est ça. Alors qu'il parle de conditions humaines, il y a lui-même participé, ce qu'il dit. OK. Merci, Danny. Alors, comment l'auteur résume-t-il l'importance de l'humanité de Jésus, ce qui était tant négligé par les Hébreux? Mais quel privilège que l'on a que d'avoir Dieu qui est venu nous rejoindre, qui a pris notre forme, qui s'est humilié, qui est devenu un souverain sacrificateur en s'offrant lui-même, qui était le seul à être propice, si je peux employer ce terme-là pour faire le lien avec le texte, qui pouvait se sacrifier pour nos péchés, anéantir le diable, anéantir l'ange le plus élevé qu'il pouvait y avoir, du moins celui qui est le chef des anges déchus, des démons. Et en prenant notre forme, mais il a souffert, il a été tenté, il a le désir de nous secourir. Il a le désir de nous secourir parce qu'il comprend notre fragilité humaine. Jésus ne comprend pas, n'a jamais participé au péché. Il n'a jamais péché. Mais il comprend, connaît nos faiblesses. Ouais. Ouais. C'est ça, absolument. Il nous comprend très bien et il est notre deuxième Adam auquel on peut être identifié, que nous, on ne pouvait pas faire de nous-mêmes. Oui. C'est ça. Oui. Alors, quand on prend tout cela, puis qu'on voit l'humanité de Jésus, ben, ça ne devient pas une occasion de douter de la personne de Dieu, mais au contraire, d'apprécier encore plus l'œuvre de Dieu du fait qu'il est venu nous rejoindre, qu'il a pris notre forme, qu'il a anéanti le diable, qu'il nous a sortis de nos péchés, qu'il a conduit à la gloire, qu'il a été le prince de notre salut, que lui a souffert pour tous, pour qu'on soit unis avec lui. Quel ange a accompli des choses semblables? Aucun. Qu'il a conduit beaucoup de fils à la gloire, comme je disais tantôt. Jésus a fait tout cela dans son incarnation. Il est devenu, oui, un peu inférieur aux anges en prenant la forme humaine, mais ce faisant, même son humanité le rend bien supérieur aux anges. On va arrêter là pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Je voulais qu'on voit, du moins pour terminer, on a fait une série de plusieurs semaines sur les anges et puis regarder leur rôle, etc. Je voulais qu'on conclue ce qu'on vient de faire avec l'idée que le Fils est supérieur aux anges, puisqu'il en est leur créateur, mais qu'il est aussi notre sauveur. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires que vous aimeriez ajouter? Que ce soit sur le texte qu'on vient de voir ce soir ou sur les anges aussi. Est-ce que je vais finir Hébreux? J'aimerais ça éventuellement, oui, étudier le livre d'Hébreux. Et puis, mais ça demande beaucoup de travail, hein, le livre d'Hébreux. Beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Je suis pas fatigué ces temps-ci, là, mais je cherche pas non plus. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, beaucoup, par exemple. Puis je veux prendre le temps de bien l'étudier avant qu'on prenne le temps de l'exposer ensemble. Là. OK, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? À comment est-ce ça? Je m'en sors avec quelques versets comme ça. Hein? Bon, mais on va prier en terminant, si vous voulez bien. Seigneur, on vient devant toi pour t'adorer certainement. Cette œuvre que tu as faite pour nous est tellement riche, tellement grande, Dieu, et on veut prendre le temps de te louer, de te remercier. Si on a ce privilège de s'approcher de toi, c'est parce que tu as permis que ton Fils prenne notre forme humaine, et puis qu'il se livre lui-même à la mort, que tu as livré ton propre Fils pour que nous, on puisse avoir la vie. Quel cadeau, Dieu, tu nous as fait pour nous rassembler auprès de toi, pour qu'on puisse, pour l'éternité, passer ce temps-là avec toi. On a hâte à ce moment, on a hâte au moment, Dieu, où tu vas nous ressusciter, où tu vas nous ramener tous ensemble avec toi, où on va passer l'éternité à apprendre à te connaître et à te chanter tes cantiques. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, que cette connaissance que l'on a de toi demeure toujours, Seigneur, de mieux en mieux. Qu'on demeure, Seigneur, stable et qu'on puisse être solide dans ce que l'on peut croire de toi, parce que tout découle de ça, Dieu. On veut avoir une bonne compréhension de ce que tu es. Pour ne pas revenir à des vieilles habitudes, Seigneur, que l'on pourrait avoir, mais pour vivre la vie que tu veux que l'on ait aujourd'hui. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen.